pendantes sur les fosses communes découvertes dans les deux principaux hôpitaux de la bande de Gaza. Quelques 200 corps ont été retrouvés dans l'hôpital de Khan Younes. Nous joindrons notre correspondant Thibault Lefebvre. Si nous on part, qui restera ici? À Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, la jeunesse garde la tête haute malgré les bombardements. Nous entendrons le reportage d'Agathe Mahué. La fermeture pour travaux du centre Pompidou doit être pour le musée l'occasion de se réformer. C'est l'avis de la Cour des comptes qui juge son modèle économique difficilement soutenable. Benoît Grossin nous expliquera pourquoi. Enfin, Florence Turme suit pour nous le procès de responsables de la secte La Grande Mutation. Les familles qui se sont constituées partie civile racontent l'exploitation de la détresse et le processus d'embrigadement. Au 200e jour de guerre entre Israël et le Hamas, rien ne laisse espérer une trêve à court terme, mais l'armée israélienne poursuit ses frappes sur la bande de Gaza. Hier, dans l'enclave palestinienne, des fosses communes ont été découvertes à l'intérieur de l'hôpital Nasser de Khan Younes. Des corps avaient aussi été retrouvés au début du mois dans l'hôpital d'Al-Shifa à Gaza. Aujourd'hui, l'ONU évoque un climat d'impunité et réclame une enquête internationale, Thibault Lefebvre.
310 corps exhumés en 4 jours selon la défense civile de Gaza liée au Hamas et les recherches continuent. Sur ces images diffusées ce matin par la chaîne américaine CNN, on voit des bulldozers qui remuent la terre sablonneuse et puis autour des dizaines d'habitants fatigués, éplorés, qui cherchent pour certains depuis 2 semaines la dépouille de leurs proches. Ils racontent avoir enterré des cadavres à la va-vite autour de l'hôpital quand les combats faisaient rage en janvier dernier dans le but d'organiser une cérémonie mortuaire à la fin de la guerre. Le 7 avril, les troupes israéliennes se retirent. Les habitants reviennent, mais ne retrouvent pas les corps. Ils accusent alors l'ennemi d'avoir déterré les cadavres pour effectuer des prélèvements ADN, puis de les avoir jetés dans ces fosses communes. L'armée de l'État hébreu reconnaît avoir cherché des otages parmi les dépouilles, mais nie avoir déplacé les corps. Selon le Hamas, des cadavres ont été retrouvés, pieds et mains liés. Israël dément, des informations impossibles à vérifier, puisque ni l'État hébreu, ni l'Égypte ne laissent de journalistes occidentaux travailler indépendamment à Gaza.
Thibault Lefebvre, notre correspondant à Jérusalem. Nous allons maintenant dans la deuxième ville d'Ukraine, qui continue de subir les assauts russes en continu depuis un mois. À Kharkiv, le quotidien est rythmé par les coupures de courant et les alertes aux bombardements. Hier, la tour de télévision a été détruite par une frappe. La ville comptait 1,5 million d'habitants avant l'invasion du pays en 2022. La frontière est à moins de 30 km, mais la jeunesse ukrainienne ne déserte pas, elle reste malgré tout. C'est ce dont témoigne le reportage d'Agathe Mahué.
Un grand parc à la nuit tombée, des enfants qui chahutent et qui se courent après. Mais ces petits Ukrainiens-là jouent dans l'obscurité. La seule lumière vient de la cabane à côté, qui vend du café à emporter, branché sur générateur. Car on a ressorti ici les groupes électrogènes de l'hiver 2022. Taras a 24 ans, barman. Il est donc barman. Son générateur, lui, l'a rebranché dès le retour des frappes, il y a un mois.
À cause de ces bombardements, les nouveaux bars de Kharkiv s'ouvrent directement dans des sous-sols. Au moins, comme ça, on sait que ce sera sécurisé.
Et il y a du monde dans ces établissements souterrains et jusque sur les trottoirs. Ce soir, Taras profite avec ses amis Tania et Marina.
Notre vie est ici. Partir, ce serait montrer à la Russie qu'on a peur d'elle. Alors on essaie de se détendre, même si c'est dans l'obscurité. Tous les jours, on cherche la lumière. On essaie de mettre un peu de joie dans nos vies.
What is your name?
My name is Ilya.
Ilya, je l'ai rencontré dans une boutique de vêtements de seconde main vendus au poids. 350 hryvnia le kilo, soit un peu plus de 8 euros. Et comme tout le monde, quand la dernière alerte aux drones ou aux missiles a retenti sur les téléphones, Ilya a fait ce que chacun fait ici. Il l'a coupé et a poursuivi ses activités.
Franchement, je ne connais personne qui réagit encore aux alertes, parce que c'est en permanence ici. Et puis le plus souvent, on entend une explosion, et 10 ou 15 secondes après, l'alerte se déclenche. Donc c'est assez inutile.
Il faut dire que la Russie est si proche que certains projectiles mettent moins d'une minute à atteindre Kharkiv. Ilya raconte qu'il y a peu de temps, un missile est tombé à moins d'1 kilomètre de lui. Un vieux monsieur à ses côtés était en train de fumer.
Il y a eu cette explosion massive, c'était très fort. Mais lui a juste tourné la tête, comme s'il ne s'était rien passé. Vous voyez, pour certains, c'est devenu la vie normale.
Lui enseigne l'anglais en ligne, et avec les coupures d'électricité à Kharkiv, c'est très compliqué.
Cette semaine, je n'ai quasiment pas pu travailler. Le réseau mobile est très mauvais. La semaine dernière, on a été privé de courant pendant 16 heures par jour.
Kharkiv, ville étudiante et très active culturellement. Vlada et Glib, même pas 20 ans, sortent d'une exposition de tableaux. Elle est peintre, lui cuisinier. Il porte une chemise bohème, une longue queue de cheval et malgré les missiles, ne voit aucune raison de s'en aller.
Si nous on part, qui restera ici? Nous les jeunes, nous sommes l'avenir de Kharkiv. Nous devons faire en sorte qu'elle se développe et fonctionne. Je suis né ici. J'aime cette ville.
Les skateurs passent et repassent sur la grande place. L'énergie de Kharkiv saute aux yeux et déboussole complètement Tolik. Dans son uniforme militaire, sac sur le dos, le soldat en permission a l'air hagard.
Je sais pas, c'est comme un autre monde. C'est dur de passer de l'un à l'autre.
Tolik était au combat dans la zone d'Avdivka, la ligne de front la plus disputée, à 200 km de là.
C'est sympa de rester là debout, écouter la musique, observer les gens. Ça permet de se souvenir de ce qu'est la vie paisible et normale.
Car là-bas, dit Tolik, sur le front, c'est une autre musique.
Agathe Mahué, Jérémy Thuil et Yachar Fazilov, nos envoyés spéciaux en Ukraine. Le Sénat américain examine aujourd'hui l'énorme plan d'aide à l'Ukraine qui a été adopté samedi. Mais c'est surtout le procès de Donald Trump qui fait parler de lui aux États-Unis. L'ancien président est jugé pour avoir acheté le silence avant l'élection de 2016 de Stormy Daniels, ancienne actrice X avec qui il aurait eu une liaison. Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir Aurélie.
Vous suivez le procès à New York. Les jurés écoutent en ce moment même le témoignage de David Pecker, cet ancien patron de presse, utilisait son tabloïd pour acheter et enterrer les affaires les plus embarrassantes pour le milliardaire. C'est l'un des personnages clés de cette histoire, Loïc.
Oui, absolument, parce que David Pecker était bien là en 2015 lors d'une réunion à la Trump Tower qui est au cœur de cette affaire. Donald Trump y participait, son avocat et homme de main Michael Cohen également, et donc ce fameux Pecker, l'ex-patron du National Enquirer, ce tabloïd qui pratiquait le catch and kill, c'est-à-dire qu'il achetait et enterrait les histoires plutôt que de les publier. On parle beaucoup de Stormy Daniels, mais il y avait eu Karen McDougal, l'ex-mannequin payé pour taire une relation présumée avec Trump. Il y avait tu aussi un portier rémunéré pour ne pas divulguer une histoire d'enfant illégitime. Bref, la défense veut montrer, grâce à David Pecker, que cette pratique était courante dans le camp Trump avant la présidentielle de 2016 et donc au centre d'un complot destiné à cacher des informations aux électeurs. Son témoignage va se poursuivre jusqu'en début d'après-midi. Voilà bientôt une heure qu'il décrit sa relation d'amitié avec Donald Trump, qu'il connaît depuis la fin des années 80, et son rôle de cheville ouvrière dans cette entreprise de dissimulation, en particulier, dit-il, lorsque cela concernait d'anciennes conquêtes. Les propos de Pecker sont d'ailleurs peut-être d'autant plus dommageables pour Trump que l'ex-patron de presse ne montre à la barre aucun signe d'hostilité à l'égard de l'ancien président.
Loïc Loury en direct de New York pour France Culture. C'est les mois après l'adoption la nuit dernière par le Parlement britannique de la loi sur l'immigration à laquelle tenait tant Rishi Sunak. Le Premier ministre conservateur la qualifie d'historique. La loi prévoit d'expulser les demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda. En théorie, les premiers avions pourraient décoller vers Kigali d'ici 10 à 12 semaines. Mais plusieurs institutions européennes, l'ONU, les églises appellent à reconsidérer le texte. Et pour le président d'Amnesty International France, Jean-Claude Samouillet, cette loi va clairement à l'encontre des droits de l'homme.
Ce système, c'est une violation des droits humains et notamment du droit d'asile. C'est le dernier droit qui reste aux personnes quand tous les autres leur ont été confisqués. Et nous nous sommes engagés, et les trois quarts du pays dans le monde, dont tous les pays d'Europe, se sont engagés à accueillir sur le territoire les personnes qui sont persécutées chez elles, à leur offrir une protection. Donc cet accord, d'une part, viole les engagements internationaux du Royaume-Uni et en plus repose sur un mensonge et sur une hypocrisie parce qu'on fait semblant de croire que le Rwanda est un pays sûr. Or, on sait pertinemment qu'au Rwanda, c'est un régime qui est quand même très très dur, notamment au niveau de la liberté d'expression, de la liberté de manifestation, des arrestations arbitraires, du recours à la torture, d'une complicité d'utilisation d'enfants soldats de l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas un pays qui respecte les droits humains et qui respecte pas non plus le droit des migrants, parce que le système d'asile est tellement défaillant qu'il y a des risques avérés de refoulement dans les pays d'origine. Donc, c'est vraiment un accord, mais qui est indigne d'un État soi-disant de droit.
Jean-Claude Samouyer d'Amnesty International France au micro de Gwendal Lavina. La nuit dernière, au moins 5 migrants, dont une petite fille, sont morts au large de Vimreux en tentant la traversée de la Manche. Le bateau était surchargé et la mer très froide. À Paris, la Ligue des droits de l'homme et Utopia 56 ont déposé une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture contre Fabrice Leggeri, le numéro 3 de la liste Rassemblement National pour les élections européennes. De 2015 à 2022, Fabrice Leggeri a occupé le poste de directeur exécutif de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Dans cette plainte, il lui est reproché d'avoir activement facilité des refoulements illégaux en mer de bateaux de migrants. Marine Le Pen dénonce un harcèlement judiciaire de la part d'associations d'extrême gauche. Le centre Pompidou est dans une situation financière très tendue, constate la Cour des comptes. À l'approche de la fermeture complète de Beaubourg pendant 5 ans pour des travaux de reconstruction, elle publie un rapport sur le plus grand musée d'art moderne et contemporain d'Europe. Bonsoir Benoît Grossin.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous.
Et ce rapport de la Cour des comptes sur la période 2013-2022 est très critique à plusieurs titres, Benoît.
Critique sur le modèle économique, sans orientation stratégique clairement formalisée, alors que la fréquentation, 2,6 millions de visiteurs en 2023, est en recul et beaucoup moins internationale que celle en croissance du Louvre ou du musée d'Orsay. Critique sur la gestion des ressources humaines et critique d'abord et surtout sur les grands projets, rénovation de Beaubourg et création d'un nouveau site de réserve à Massy, dont le financement de plus de 600 millions d'euros n'est pas totalement assuré. Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, va jusqu'à parler de mur d'investissement.
Quand vous avez des recettes qui stagnent, des dépenses trop importantes et des projets massifs, vous avez effectivement des besoins de financement. Ajoutez à ça qu'il y a un schéma culturel qui coûte quelques 200 millions d'euros, qui lui doit être financé par le centre seul, qui ne peut être financé ni par l'État, par les collectivités territoriales, ni par un partenariat public-privé. Et il manque 169 millions d'euros qui sont à trouver très rapidement. Donc il y a une pression financière et elle appelle une grande vigilance et aussi une action tout à fait déterminée et qui doit être le fait à la fois de la direction du centre, mais aussi de la part de la tutelle, l'État. Mais observons qu'il n'y a pas eu de documents partagés sur un projet, il n'y a pas de contrat d'objectifs et de performance entre l'État et le centre. Il est grand temps de mettre en harmonie les recettes qui doivent augmenter, et donc réfléchir sur la fréquentation de ce centre, sur la qualité de ses expositions, au sens de leur capacité à attirer du monde, car elles sont de très grande qualité, réfléchir sur une politique de mécénat internationaux, trop peu développée au regard des capacités du centre Pompidou, maîtriser les dépenses et faire en sorte que les grands projets d'investissement, ils sont lancés, ils sont décidés, soient tout de même financés et gérés dans les règles de l'art.
Et les magistrats de la rue Cambon-Aurélie, dans leur conclusion, appellent le centre Pompidou à profiter des 5 ans de fermeture pour mener à bien des réformes, je cite, trop longtemps repoussées.
La présidence de l'établissement, Benoît, ne souhaite pas réagir.
Mais elle assure dans une lettre adressée fin mars à la Cour des comptes qu'une gouvernance est à présent consolidée pour faire face aux enjeux stratégiques et qu'un chantier de modernisation de la gestion des ressources humaines est désormais aussi engagé.
Merci Benoît. Rappelons qu'entre octobre et janvier, une grève des agents du centre Pompidou pour les emplois et missions avait entraîné 24 jours de fermeture. 4 syndicats de salariés, peut-être un 5e bientôt, ont rédigé un texte en concertation avec l'UDP, organisation patronale minoritaire, sur un compte épargne temps universel et sur les reconversions professionnelles. Un accord sans les deux autres organisations patronales, à savoir MEDEF et CPME. Bonsoir Wafia Kenich.
Bonsoir Aurélie.
L'UDP, représentant des artisans, commerçants et professions libérales, a pris l'initiative d'engager une nouvelle négociation sur ces deux sujets après l'échec des discussions sur le pacte de la vie au travail il y a deux semaines preuve d'une reprise, Wafia, du dialogue social.
Oui, après seulement 2 séances de négociations, les partenaires sociaux ont abouti sur 2 textes, le CETU. Alors, il prévoit une ouverture d'un compte épargne-temps pour tous les salariés utilisables sans condition d'ancienneté et transférable d'une entreprise à une autre. Ce projet est soutenu par la CFDT, la CFTC, peut-être aussi par RFO. Le deuxième texte concerne les reconversions qui devraient être portées par la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, éventuellement FO et la CGT. Chacun doit maintenant consulter ses militants. Pour autant, ces nouvelles négociations, c'est un changement sur le fond et sur la forme. Sandrine Mouret, négociatrice de la CGT.
De continuer à travailler avec quand même un esprit de vouloir négocier, avec une écoute mutuelle, avec une volonté, avec un texte clair. C'est une vraie négociation, on pouvait prendre la parole, ça pouvait être noté, on sentait qu'on avait la main, on pouvait faire bouger les lignes, on était entendu. C'est d'une autre nature, effectivement, que la précédente négociation, avec la volonté de ne pas vouloir arriver à une conclusion à la fin.
Même son de cloche du côté de Jean-Christophe Repond, vice-président de l'UDP.
On avait envie de réussir, on avait envie d'avoir 2 accords possibles ouverts à signature. Après, on verra bien sûr, chacun prendra ses responsabilités, mais on a 2 accords qui sont équilibrés, qui respectent et le patronat et les salariés pour pouvoir avoir une modernisation du paritarisme. On invite fortement le gouvernement à s'en inspirer, trait pour trait, et qu'il retranscrive les textes qui ont été proposés à signature.
Michel Boga de FO parle, lui, de vrai dialogue social et salue le texte sur la reconversion.
Ce texte pourrait protéger les salariés d'une attaque du MEDEF et de la CPME avec le texte qu'ils avaient présenté où il y avait la démission, voilà, du contrat de travail.
Là, il n'y a plus cette idée de démission des salariés en reconversion.
C'est ça, voilà, il y a maintien du contrat de travail, il y a maintien de la rémunération et en plus, retour dans l'entreprise, s'il y a retour dans l'entreprise, en fait, eh bien, il y a aussi la qualification et la rémunération qui sont prévues avec votre nouveau diplôme.
L'UDP assure avoir eu des gages du gouvernement pour que ces 2 textes soient inscrits dans la loi Travail 2 prévue cet automne.
Wafia Kenish. Comme bien d'autres avant lui, il prétend débureaucratiser la France. Gabriel Attal a présenté ce matin un plan de simplification administrative qui reprend en fait plusieurs mesures déjà lancées par Elisabeth Borne, comme la création de 300 nouvelles maisons France Service. Mais le Premier ministre insiste aussi sur le développement d'une intelligence artificielle 100% française, censé faciliter la relation entre les Français et leurs services publics. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Aurélie.
Cette intelligence artificielle générative souveraine a été baptisée Albert et on nous annonce son arrivée dans le courant de l'année dans de nombreuses administrations.
Oui, et c'est une révolution en marche, à en croire Gabriel Attal ce matin à Sceaux. Il a voulu d'emblée désamorcer la critique. Non, le fameux Albert ne va pas remplacer les agents de la fonction publique.
Je pense que les deux sont hautement compatibles et même que les deux vont pouvoir se renforcer. À l'IA, les tâches répétitives, les tâches automatiques, à nos agents, le contact et le relationnel. Et c'est parce que l'intelligence artificielle permettra de dégager encore davantage du temps à nos agents sur des procédures administratives qu'ils n'auront plus à réaliser dans la même ampleur, qu'ils auront davantage de temps à consacrer aux relations humaines avec les usagers.
Alors on le comprend, cette intelligence artificielle, elle ne sera pas utilisée par les usagers eux-mêmes, mais par les agents administratifs pour faire face aux 16 millions de demandes en ligne qu'ils reçoivent chaque année. Le père d'Albert, c'est Ulrich Tann, le chef du Data Lab, fondé en septembre dernier au sein de la direction interministérielle du numérique.
Déjà, la première chose, c'est que technologiquement, on est très loin de pouvoir remplacer un agent.
Et pas le remplacer donc, mais lui faciliter le travail, on l'a compris.
Cette intelligence artificielle générative, vous allez lui poser une question, lui exposer une situation d'un usager en langage naturel, puis elle va vous proposer tout un ensemble de sources documentaires qui ont été vérifiées, ce sont des sources documentaires officielles. Et l'intelligence artificielle propose également une ébauche de réponses adaptées au cas d'usage de l'usager.
Déjà une 50aine d'administrations centrales ou territoriales sont en contact avec l'équipe d'Ulrich Tann pour développer une version d'Albert adaptée à leur service public. Ça devrait déboucher sur des applications concrètes dans le courant de l'année. Mais déjà, depuis un an, les services des impôts utilisent une intelligence artificielle pour lutter contre la fraude fiscale. Une révolution donc, affirme Gabriel Attal, qui a permis de récupérer 40 millions d'euros de recettes fiscales pour l'État.
Camille Magnard, nous nous intéressons maintenant à un procès qui devrait permettre d'explorer les ressorts de l'embrigadement et des dérives sectaires. 6 personnes considérées comme des membres influents de la secte La Grande Mutation comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris, poursuivies pour abus de faiblesse et l'une d'elles pour exercice illégal de la médecine. Dans les années 2000, le mouvement piloté par un ancien chercheur au CNRS, aujourd'hui décédé, avait réussi à happer quelques 200 fidèles, dont plusieurs familles se sont constituées partie civile. Le tribunal a commencé à les entendre, Florence Thiom, avec d'abord les trois enfants et la sœur d'une adepte qui s'est suicidée.
Notre maison, c'était la maison du bonheur et notre mère, l'âme de cette maison, quelqu'un d'accueillant, de convivial, commence Nicolas, l'aîné des cinq frères et sœurs. Il porte un t-shirt ironisant sur la liberté de pensée cosmique. Elle s'est trouvée prise dans un engrenage, embrigadée, poursuit sa tante, on avait l'impression d'un lavage de cerveau. Tous situent le point de bascule de Véronique au moment de la maladie de son plus jeune fils, Victor, pour qui elle cherche des alternatives à la médecine traditionnelle. Il est là, lui aussi, qui l'a suivi dans ses réunions où les fidèles travaillent avec des pendules. Au lieu d'aller voir des médecins, j'ai passé une bonne dizaine d'années à me persuader que j'étais responsable de ma propre maladie. Lui, tout jeune adolescent, impressionné par les discours, mais son malaise grandissant l'incite à prendre du recul. Sa mère, elle, s'éloigne davantage de son mari, de ses enfants, des petits-enfants qu'elle chérissait, se souvient encore Nicolas, s'oppose à leur vaccination. Une femme sous influence qui a fini par nous dire « ce n'est plus la peine de m'appeler maman ». Je garde en mémoire une mère avec de l'amour dans les yeux, ajoute sa sœur Adélaïde, je l'ai vue dépérir. Puis les larmes cèdent la place à la colère, une mère qui a élevé cinq enfants, comment peut-elle mourir seule, rester pendue comme un chien pendant près de 3 semaines? On a retrouvé le corps de Véronique avec plein de petits mots et de mouchoirs éparpillés dans l'appartement où elle vivait coupée des siens, sans même pouvoir déterminer la date exacte de son décès.
Le procès dure jusqu'au 3 mai. Météo France prévoit demain un temps variable avec des averses plus fréquentes dans l'est et le nord, du soleil dans le sud-est. Les températures, 0 à 9 degrés le matin, 9 à 19 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.